Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous explorons une nouvelle maladie rare, l'acromégalie. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Thierry Bru. Professeur Bru, bonjour.
Oui, bonjour.
Professeur Bru, vous êtes endocrinologue, professeur des universités d'Aix-Marseille et praticien hospitalier, chef du service d'endocrinologie, diabète et maladies métaboliques à l'hôpital de la Conception à Marseille. Votre service est également le centre coordonnateur des centres de référence des maladies rares de l'hypophyse. Alors, professeur Bru, ma première question est très simple. L'acromégalie est une maladie rare. Est-ce que vous pourriez nous la présenter en quelques chiffres?
Oui, bien sûr. Donc, c'est en effet une maladie rare selon la définition qui en est donnée en France et en Europe. Et concrètement, c'est peut-être le plus parlant, il y a en France entre 5 et 10 000 patients, 10 000 personnes qui sont atteintes de cette maladie. Donc, en fait, on estime que l'incidence des nouveaux cas, c'est de l'ordre de 5 nouveaux patients par million d'habitants, et donc ce qu'on appelle la prévalence, c'est-à-dire le nombre de patients à intenter à un moment donné, c'est de l'ordre de 20 à 30 patients par million d'habitants.
Maintenant, si on s'intéresse aux patients eux-mêmes, qui sont les patients touchés et quelles sont les principales manifestations cliniques de l'acromégalie?
Alors, les patients touchés peuvent avoir tous les âges. C'est une maladie qui peut toucher l'enfant. Et chez l'enfant, on parle parfois d'acromégalogigantisme parce que quand la maladie survient avant que les cartilages de croissance soient soudés, ça peut donner des géants. Mais c'est quand même quelque chose de très rare. Dans la grande majorité des cas, la maladie touche plutôt des adultes avec un pic autour de 40 à 50 ans. Et touche à peu près autant les hommes que les femmes.
Et en termes de symptomatologie et de manifestation clinique, comment est-ce que ça se manifeste?
Alors justement, c'est l'une des particularités de cette maladie, c'est d'être très insidieuse, c'est-à-dire que les manifestations cliniques souvent ne sont pas remarquées très tôt par le patient lui-même, par son entourage et par les différents médecins qu'il peut rencontrer. Parce que les manifestations sont donc très progressives, ce sont des modifications des traits du visage, également des extrémités, donc les mains s'élargissent, les pieds aussi, donc peut y avoir des changements de pointure, des élargissements de bagues qui soient nécessaires. Et puis, un certain nombre d'autres symptômes plus généraux comme une transpiration excessive, des maux de tête, parfois des troubles sexuels. Il y a souvent aussi des douleurs articulaires, parfois par ce qu'on appelle le syndrome du canal carpien, c'est-à-dire des fourmis dans les mains. Donc, des manifestations très diverses et aussi des retentissements plus généraux sur la santé. Par exemple, on peut avoir un diabète à cause de cette maladie, on peut avoir la tension qui monte, donc de l'hypertension artérielle, on peut avoir ce qu'on appelle le syndrome d'apnée du sommeil. Donc ce sont des exemples, beaucoup de manifestations qui touchent un petit peu tous les organes, tous les secteurs de la santé, et donc ce sont des patients qui peuvent être amenés à rencontrer beaucoup de médecins dans leur parcours. Mais ces médecins ne pensent pas facilement à cette maladie, d'une part parce qu'elle est rare et d'autre part parce que les manifestations sont peu spécifiques souvent et un peu insidieuses.
Et comment expliquer la survenue de ces symptômes? Quelle est la physiopathologie de l'acromégalie?
Alors, pour être simple, c'est une maladie qui est due à des tumeurs bénignes, qui sont donc toujours bénignes, c'est jamais cancéreux, tumeurs bénignes qui se situent dans l'hypophyse. L'hypophyse, c'est la petite glande qui se trouve pour être simple, derrière le nez, derrière les sinus de la face et sous le cerveau. Et il se produit une petite tumeur qui va fabriquer trop d'hormones de croissance. Et c'est cet excès d'hormones de croissance qui va entraîner les différents symptômes de la maladie.
Et face à des symptômes assez disparates et parfois peu spécifiques, quels sont les principaux diagnostics différentiels à écarter?
Alors, je dirais que sur l'aspect le plus spécifique de la maladie, ce qui est caractéristique, disons, ce sont les modifications, l'élargissement des doigts, l'élargissement des traits du visage. Là, il y a relativement peu de diagnostics différentiels. Ça peut être très peu de choses en dehors de cette maladie. En revanche, beaucoup d'autres symptômes sont très banales et au contraire peuvent se voir en dehors de cette maladie comme l'hypertension, le diabète. Voilà, donc c'est un petit peu cette particularité qui fait que le diagnostic est souvent tardif parce que les signes qui sont caractéristiques sont très progressifs d'installation et donc ne sont pas souvent remarqués par l'entourage ou par les médecins qui voient ces patients.
Alors j'imagine que certains patients peuvent rester des années avant d'être correctement diagnostiqués. Si on veut réduire cette errance, comment y penser? Quels sont les principaux symptômes qui doivent alerter le clinicien?
Bien voilà, il faut dans un premier temps être au courant de l'existence de cette maladie. Ensuite, il faut y penser devant des symptômes qui sont des changements de visage, des modifications du visage ou un aspect un peu élargi des mains. Donc, penser devant des patients qui se plaignent de transpirer beaucoup, d'avoir un syndrome du canal carpien. Et toujours se poser la question aussi quand on a une association de plusieurs symptômes ou complications de cette maladie qui peuvent mettre sur la voie, par exemple, un diabète, une hypertension et des troubles articulaires, des troubles du cycle chez la femme et des transpirations, éventuellement une hypertension. Voilà. Donc l'association des différentes atteintes doit aussi être une source de diagnostic.
Très bien. Et si on y a pensé, comment confirmer le diagnostic cette fois?
Alors, donc, l'essentiel, effectivement, c'est d'y penser parce que confirmer le diagnostic est relativement simple. On peut faire un dosage de l'hormone qui est le plus souvent augmenté dans cette maladie, qui est, alors, non pas l'hormone de croissance, mais l'IGF-1, qui est un paramètre biologique qu'on peut mesurer un peu assez facilement à n'importe quel moment de la journée. Un dosage isolé va déjà permettre de faire le diagnostic. La fausse bonne idée, c'est de faire effectivement l'hormone de croissance, le dosage d'hormone de croissance, parce que on peut avoir des variations très importantes chez le sujet normal, et donc une valeur isolée n'est pas tout à fait suffisante pour faire le diagnostic.
Dernière question de notre entretien, professeur Bru. Une fois que le diagnostic d'acromégalie est confirmé, quels sont les différents types de prise en charge qui peuvent être proposés aux patients?
Alors, la première chose que je dis aux patients, une fois que je leur ai expliqué quelle est la maladie dont ils souffrent, c'est que les différents traitements vont pouvoir les soulager et qu'il y a des solutions à leur maladie. Donc, ces traitements sont multiples. En fait, il y a essentiellement la chirurgie qui va permettre d'enlever la tumeur, même si elle est bénigne. Le plus efficace, c'est de l'enlever, c'est ce qui se fait par les narines, en fait, par des chirurgiens, des neurochirurgiens spécialisés. Si on arrive à enlever toute la tumeur par la chirurgie, ce qui est en gros le cas dans un cas sur deux, bien, le patient peut être définitivement guéri. S'il n'est pas malheureusement dans ce cas, donc on a d'autres traitements possibles. Il y a des médicaments qui sont souvent donnés en une injection par mois, donc qui permettent de contrôler la plupart du temps les patients. Pour les patients qui ne sont pas contrôlés par cette injection mensuelle, il y a également d'autres médicaments qui sont donnés sous forme d'injection sous-cutanée. Et il y a pour de beaucoup plus rares cas des possibilités de traitement par radiothérapie qui peuvent être soit des radiothérapies classiques qu'on fait en plusieurs séances, soit des radiothérapies ciblées qui ont pour but de détruire le reste de tumeurs que les chirurgiens n'ont pas pu enlever. Voilà très schématiquement les moyens dont on dispose qui permettent en fait de contrôler la très très grande majorité, voire la quasi-totalité des patients.
Eh bien, merci infiniment, professeur Bru, de nous avoir éclairé sur cette maladie rare qu'est l'acromégalie. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raralecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur l'acromégalie où on abordera cette pathologie du point de vue du neurochirurgien cette fois. À très vite.